Donc une petite feuille sur la Trinité. Alors on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que c'est un sujet un peu brûlant quand même, à mon avis, c'est que dans le christianisme, c'est un sujet brûlant, c'est-à-dire que si on dit qu'on n'est pas fan de la Trinité, on peut avoir des remarques désagréables. Et c'est vrai que je regardais dans un dictionnaire de théologie chrétienne, d'emblée ils mettent que c'est la spécificité du christianisme par rapport au judaïsme et par rapport à l'islam, que c'est ce qui rassemble tous les chrétiens, machin. Et le Conseil œcuménique des Églises, encore récemment, ils essayent de redéfinir ce que c'est qu'être chrétien, qui rassemble tous les chrétiens, et crac, c'est tout de suite un Dieu trinitaire qui est mis au début. Donc c'est vrai que c'est quand même, on sent un enjeu important dans cette question de la Trinité dans le christianisme. Alors c'est vrai que à l'oratoire, on a la chance, on a la chance de que ça puisse être apaisé sur cette question, tranquillisé, et qu'on puisse être soit trinitaire, soit non trinitaire, soit n'avoir aucune opinion sur la question, s'en fiche. Donc ça, je trouve que c'est assez... on a de la chance. C'est vraiment, à mon avis, une richesse, une force. Mais on voit que c'est chaud. Par exemple, sur le blog, il y avait une question, c'était est-ce que Jésus est Dieu ou pas Dieu ? C'est une des questions. Il y a 165 commentaires à cette question. Les gens sont assez chauds. J'ai dû supprimer pas mal de commentaires de gens haineux qui menacent ceux qui ne sont pas trinitaires de griller en enfer pour les siècles des siècles. Amen. Et c'est vrai que c'est assez...
Mais c'est bienveillant. Ils les préviennent qu'ils risquent de crier en enfer.
Vachement sympa, oui.
Pour qu'ils changent.
Pour qu'ils changent. Qu'ils se convertissent, enfin, à la foi chrétienne. Hein. Voilà. Alors pourtant, bon, c'est vrai qu'au point de vue donc, de la Bible, on a du mal quand même. Hein. On a du mal à trouver, en tout cas le mot Trinité, on ne risque pas de le trouver puisque ça a été inventé donc, par Tertullien dans un livre contre Praxéam en 213, donc 180 ans après la mort de Jésus, grosso modo, enfin bon, c'est pas exactement à l'année près quand Jésus est mort, mais 180 ans à cette époque-là, ça fait quoi, après 10 générations, pas tout à fait, de gens qui n'ont jamais entendu parler de la Trinité, en tout cas, et que ça n'empêchait pas de dormir. Donc, pour le moins, ça ne veut pas dire que la Trinité est quelque chose de stupide, loin de là, mais pour le moins, ça veut dire que, bon... on devrait quand même reconnaître que ce n'est pas l'essentiel, que c'est une façon d'exprimer sa foi qui est intelligente, qui est très construite. Donc, génial. Mais en tout cas pas obligatoire ni fondamental. Alors, qu'est-ce que j'ai pu trouver sur la Trinité ou en rapport avec ça ? Donc la Trinité, ce serait un Dieu trois en un finalement, comme l'huile, vous savez, qui dégraisse, dérouille et huile, je ne sais pas quoi. Là, c'est un Dieu trois en un, c'est-à-dire qu'il y a le Père, le Fils et l'Esprit. Bon, alors, c'est vrai que, bon, c'est ce qui me fait penser, déjà un quelque chose, si vous voulez, c'est que par rapport au judaïsme, par rapport à l'islam, c'est extrêmement critiqué, donc les musulmans nous disent qu'on est des associateurs à cause de ça, associons à Dieu autre chose pour le compléter. Les juifs trouvent cette idée moyenne. Bon, quand même, si vous voulez, je commence donc par Dieu unique en deux noms. C'est vrai que c'est dans la Bible hébraïque quand même, le commandement fondamental, la confession de foi fondamentale qui est donc dans le chemin Israël, qui est dite par les juifs matin, midi et soir et tout le temps, et clouée sur la porte, le montant de la porte dans la cage d'escalier, c'est quand même ça. Écoute Israël, Yahvé, Yahou est notre Dieu, Yahou est un, unique. Et donc il y a déjà deux noms, il y a le tétragramme sacré, je suis, je serai, et puis Dieu, qui est un pluriel aussi, parce que c'est Elohim, c'est un pluriel. Même si le mot Dieu au pluriel est à ce moment-là conjugué avec un verbe au singulier, quoi. Donc on reconnaît que c'est un pluriel de majesté, pas un pluriel de nombre, hein, si vous voulez. Mais quand même, Dieu a deux noms. Et donc déjà, si vous voulez, ça, c'est déjà une théologie qui est paradoxale. C'est-à-dire, on a envie de dire, mais alors dites-nous, Dieu c'est Yahvé ou c'est Elohim ? Il faudrait savoir. Est-ce que c'est un Dieu qui est source de l'être ou c'est un Dieu qui est un Dieu puissant qui construit avec rigueur? Faut savoir. En fait, c'est les deux. Et justement, la confession de foi géniale, à mon avis, hébraïque, qui ouvre un espace dans une définition de Dieu qui est complexe et donc qu'on ne peut pas enfermer dans une seule case. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Et Jésus reprend la même chose. Il le traduit par « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur » parce que dans un judaïsme relativement tardif, par respect pour Dieu, il ne prononce pas le tétragramme et il le prononce liturgiquement en disant Adonai le Seigneur ou en disant Hachem le nom. Donc c'est devenu dans la langue liturgique de Jésus finalement, hein, s'il parle hébreu là ou peut-être araméen, qu'importe, c'est devenu le Seigneur. Si je dis ça, c'est que va y avoir un glissement après et que donc on va appeler Jésus Seigneur parce que Seigneur c'est quand même un nom courant, on appelait comme on dit monsieur, c'est mon seigneur en fait, en français courant. En grec, on peut dire seigneur à tout un tas de gens. Enfin bref, il y a déjà dans le judaïsme, à mon avis, cette idée d'un Dieu à plusieurs noms, plusieurs facettes, plusieurs natures. Voilà. Alors Yahvé, c'est plus le côté tendresse de Dieu, et Dieu, c'est plus le côté créateur, puissant. Donc il y a peut-être ces deux faces à prendre en compte. Mais alors ensuite, c'est vrai que le polythéisme, quand même, on en voit trace dans l'Ancien Testament. Par exemple, le psaume 82, Dieu se tient dans l'assemblée des dieux, il juge au milieu des dieux. Donc il y a un reste de polythéisme qui arrive, et on le sait, si on regarde les écrits de Thomas Romer, il explique bien que dans le temple de Jérusalem, il y avait longtemps un culte à Yahvé et puis un culte à Asherah, qui était la femme de Yahvé, en fait. Il y avait du polythéisme et on le voit dans la Bible. À un moment, ils font un grand coup de ménage. Ils disent, maintenant, à partir de maintenant, on est monothéiste. Donc vous me bazardez tout ce truc qui est dans le temple et vous le mettez à la poubelle. Donc, c'est vrai que du coup, il peut y avoir des traces de polythéisme dans la Bible hébraïque. Sans que pour autant, alors ce qui peut réjouir dans un sens, ce qui est dangereux bien sûr, parce que nous on préférerait être radicalement monothéiste, ça me semble moi génial comme raffinement théologique d'être monothéiste plutôt que polythéiste. C'est un principe unifiant, je veux dire, de la pensée, de l'être, de la dynamique, et c'est intéressant, moi je trouve. Mais il peut y avoir des traces de polythéisme. Alors là, c'est explicite, mais il y a d'autres endroits, ça l'est moins. Par exemple, un peu plus tardivement, ils vont faire descendre des anges, des démons, des diables. C'est encore du polythéisme qui vient se projeter. Mais au lieu de le faire au niveau d'un panthéon, de plusieurs dieux, ils vont projeter vers un niveau intermédiaire entre les créatures, les humains, et puis Dieu ou les dieux, avec un panthéon intermédiaire, un peu de deuxième classe entre les dieux et les hommes. Mais c'est, je dirais, on n'est plus non plus tout à fait dans le monothéisme strict quand on rajoute ces intermédiaires. Voilà. Alors il peut apparaître du pluriel pour Dieu, je le disais, Dieu est déjà un mot pluriel, mais à ce moment-là, le verbe est au singulier. Il arrive que le verbe soit au pluriel. Par exemple, dans Genèse 1, 26, « Faisons l'homme à notre image. » c'est un peu ennuyeux, Parce que « Faisons », c'est qui « Faisons » ? Ou alors un peu plus loin, 3, 22, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous. » Pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons, au pluriel le maintenant, d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, de vivre éternellement. Ou bien dans le récit de la tour de Babel, ça c'est la chute, vous voyez, c'est la fin du récit de la chute. Genèse 11, 7, c'est le récit de la tour de Babel. Allons et descendons, et là confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Alors c'est qui ce descendons? Alors les chrétiens, après... Tertullien qui a initié un peu le truc, et puis plus tard, au cours des siècles, James nous expliquera comment, je pense, il dit, c'est la Trinité, en fait, bien sûr. C'est la Trinité qui s'asseye tous les trois autour d'un petit apéritif, et puis ils se disent, qu'est-ce qu'on va faire, ici on faisait ça. Alors, eux, les Juifs, ou avant que la Trinité soit inventée, ils n'avaient pas une idée de seconde de ça. Alors, ils disaient, bon, bah, c'est Dieu et sa sagesse, par exemple, qui discutent l'un de l'autre. Parce qu'à un certain moment, on le voit un peu, la sagesse personnifiée en dessous, à partir d'un certain moment, il y a eu une sorte de personnification de la sagesse dans les textes. C'est-à-dire que ça devient comme une personne qui est sujet des verbes, la sagesse de Dieu. Donc ça pourrait être Dieu qui parle avec sa sagesse. Autre possibilité pour faisons l'homme à notre image, il y a des gens qui disent que c'est qu'en fait Dieu le propose à l'homme. Si tu veux, toi et moi, moi Dieu, toi l'homme, on pourra créer enfin un être vraiment humain dans une collaboration de l'homme à sa propre genèse, ce qui me paraît pas idiot aussi. Enfin bref, c'est sujet à interprétation, c'est soit j'allais dire Dieu et sa sagesse, soit Dieu et l'homme, soit ben, c'est un reste de polythéisme qui traîne par là, et donc c'est Dieu avec l'assemblée des dieux qui disent ben voilà qu'est-ce qu'on va faire, et puis Dieu créateur il dirige et voilà il tranche, il parle au nom des autres dieux du panthéon, voilà. Alors la sagesse personnifiée, bon j'ai mis par exemple un texte de Job, hein, la sagesse elle est Elle vient de quelque part, elle demeure quelque part, elle est cachée, elle est source de quelque chose, et c'est Dieu qui la connaît, et c'est voilà. Alors, on a aussi avec la parole de Dieu, la parole de l'Éternel, qui peut apparaître personnifiée, c'est-à-dire qu'on se met à parler de la parole de l'Éternel, elle existe, elle est en vision. Elle peut, bon, il y aurait d'autres exemples hein, sur la parole de l'Éternel qui devient une personne. Ça va s'augmenter encore, en fait, je pense, dans les écrits intertestamentaires, c'est-à-dire les apocryphes de l'Ancien Testament, et par exemple de la sagesse comme, des écrits juifs comme Philon d'Alexandrie. Philon d'Alexandrie, entre les deux testaments, ou alors, non, il est contemporain de Paul, peut-être, Philon d'Alexandrie, je pense, plutôt. Mais entre les deux testaments, on le voit déjà apparaître. L'idée que la parole de Dieu est appelée fils aîné de Dieu, ou même Dieu second, paraît-il. Ou alors, on se met à parler d'une sagesse qu'on appelle Métatron, donc qui partage le trône de Dieu et qui est à côté de Dieu, mais pas vraiment Dieu, mais qui partage sa manière de régner. Alors ça apparaît, si vous voulez, parce que bon, il commence par ne pas prononcer le nom de Yahvé, mais c'est du respect pour la transcendance de Dieu. Et alors ensuite, plus on met Dieu loin finalement dans le ciel, plus on en fait un tout autre. On l'éloigne complètement de tout ce que nous sommes et de tout ce qu'on peut connaître et tout ce qu'on peut savoir, même jusqu'à ne plus pouvoir prononcer son nom. Bah, du coup, ça devient gênant qu'il interfère avec les humains et avec ce monde. Alors du coup, ça donne envie, ou en tout cas, on voit apparaître une personnification de la sagesse, une personnification de la parole, une personnification de la gloire de Dieu. Hein, la Shekinah, la gloire de Dieu, donc des sortes de figures de Dieu finalement, un peu des figures qui existent comme des personnes, quoi, vous voyez. C'est quelque chose dont on peut voir des traces déjà dans la Bible, et en particulier, donc je mets dans Jean 1, quoi, au commencement la parole, et la parole était avec Dieu. Ou alors elle était à Dieu, donc c'est discuté comme traduction, et la parole était Dieu, quoi. La parole était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et puis la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, donc vous voyez, il y a quand même une personnification de la parole, quand même. Un peu. La parole de Dieu. Mais on dit la parole, le logos. Et donc, ça, c'est quelque chose qui apparaît, finalement, entre moins 300 et 0, quoi, ou moins 500, je ne sais pas. Alors, il y a aussi un texte qui est mis là, qui est assez, qui va quand même pas mal dans le sens de la Trinité. C'est le texte de. Bon, alors, j'ai mis théophanie parce que voilà, faut apprendre ces mots de patois finalement. C'est l'apparition de Dieu, théophanie. Et donc, il y a une apparition de Dieu à Abraham, au chêne de Mamré. C'est là que finalement, c'est un des passages essentiels hein, de cette saga d'Abraham. Donc il était assis à l'entrée de sa tente, là encore, pendant la chaleur du jour, encore en train de prendre l'apéro, dont je parlais tout à l'heure, sans doute. Il lève les yeux et il regarde, et voici trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre et dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. » Et puis il lui propose de l'eau pour qu'ils puissent se laver leurs pieds, quoi, et de manger une blanquette de veau. Alors, c'est vrai qu'il y a trois hommes, quoi. Surtout le chiffre 3, il est quand même magnifique, parce que ça peut arriver que, par exemple, il pourrait dire des anges, il pourrait dire je ne sais pas moi. Alors, il y a trois hommes, quoi, et puis il l'appelle Seigneur, en fait. Donc, c'est à la fois trois hommes et à la fois c'est Seigneur. Hein. Et à la fois, il faut qu'il se lave les pieds, quoi. Donc, si vous voulez, c'est vrai que les pères de l'Église, en particulier, font leur chou gras de ça à partir du moment, à partir donc du 3e, 4e siècle, hein, pour dire ben, c'est la Trinité, bien sûr, hein, qui vient. Et c'est d'ailleurs la fameuse icône de la Trinité de Roublev. J'aurais dû en faire une photocopie, là, mais ça représente ça, en fait. Ça représente les trois anges, les trois hommes, ou le Seigneur, ou Dieu, ou la Trinité qui vient et qui est à la table, en fait, qui est à la table de l'agneau, qui est la table du banquet d'Abraham. Voilà, donc ça, c'est une lecture tout à fait fondamentale pour la Trinité. Alors, ça peut se retrouver dans d'autres endroits, hein, cette histoire de voilà, d'ange, de Dieu, d'homme, par exemple, dans le combat de Jacob avec l'ange. En fait, cet ange, on dit, c'est un, ça apparaît comme un homme, et puis à la fin, il dit, bah, j'ai combattu avec Dieu, finalement. Donc, c'est pareil, c'est un homme, c'est un ange, c'est Dieu. Alors, pour comprendre ça, si vous voulez, c'est que, à mon avis, le mot ange, ça ne veut pas dire bête à plume, ça veut dire messager. Et donc un messager, c'est ce qui porte la parole de Dieu. Bon, quelque chose qui vient de Dieu et qui augmente l'être, finalement, qui apporte un supplément de création. Donc cet ange, ça peut être, bon, les gens pensaient que ça pouvait être une bête à plumes, bon, ça doit être quand même plutôt rare, parce que moi je connais, enfin les seuls cas que je connaisse de gens qui ont vu des anges, ils étaient peut-être un peu souffrants, mais ce n'est pas du tout pour dénigrer, si vous voulez. C'est parce que ça peut arriver, hein, je veux dire, ça peut être en songe, ça peut être... quand c'est éveillé, à mon avis, c'est un peu plus inquiétant, mais bon, peut-être après tout. Hein, moi, ce n'est pas parce que j'en ai jamais vu que ça n'existe pas. J'ai des tas de choses que je n'ai jamais vues qui existent quand même. Le Venezuela, par exemple. Je ne sais pas si ça existe, mais je n'ai jamais vu. Donc, ça peut être un ange, bon, mettons. Mais plus souvent, c'est par la prière, c'est donc Dieu lui-même qui, à l'intérieur de nous, se manifeste, ou bien ça peut être à travers quelqu'un qui fait effet de porteur de la parole de Dieu pour nous à ce moment-là, et qui nous apporte ce petit quelque chose qui fait un déclic, et qui fait que je suis plus vivant et plus aimant plus avant qu'après. Donc il y a eu effet de parole de Dieu. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, si vous voulez, c'est une expérience vécue. L'ange... un homme, Dieu, c'est tout ça, si vous voulez. Et ce flou artistique, ce patinage artistique, c'est pour qu'on puisse s'approprier ce genre de texte. En se disant, bon, j'ai pas vu d'ange, mais j'ai vu des hommes qui me rendent visite et qui peuvent faire signe pour moi. Et je peux avoir aussi une rencontre où directement dans la prière, je peux être en relation avec Dieu et où je sens quelque chose qui me fait avancer. Donc, il peut y avoir des signes, des choses qui pour moi font sens dans ce que je vois, dans l'actualité, dans ce qui m'arrive, dans voilà. Donc c'est pour ça que je crois que c'est présenté comme ça. Est-ce qu'il faut ensuite l'interpréter comme évoquant la Trinité? Ben, en fait, c'est pas idiot non plus, parce que la Trinité, C'est donc pas littéralement dans la Bible, mais c'est quand même un raisonnement, une projection à partir de ce que dit la Bible. Puisque la Trinité, elle est finalement un fruit d'une réflexion, d'une élaboration théologique et mystique à partir de la Bible, c'est pas étranger à ce qu'est la Bible. Donc vous voyez, ces écritures, le chêne de Mamré, c'est ce que je vous dis, c'est que c'est fait pour qu'on l'interprète à notre sauce en fonction de notre propre expérience, c'est fait pour. Donc, celui qui est mystique, il peut l'interpréter comme évoquant le résultat de la prière. Celui qui aime beaucoup progresser dans une discussion avec les autres, il va dire que c'est de la communauté de la discussion que naît dans l'accueil de pensées, de personnes nouvelles que va naître machin. Et les trinitaires peuvent dire, je reconnais la Trinité. C'est tout à fait, il n'y a aucune lecture qui disqualifie les autres. Et moi, je reconnais qu'on a le droit d'en tirer la Trinité, ce machin. Même si c'est manifestement un anachronisme. C'est évident que l'auteur de la Genèse n'y a pas pensé une seconde, parce que même Jésus n'y aurait pas pensé une seconde, si vous voulez. Évidemment, c'est un anachronisme. Vas-y.
Oui. Dans l'intérieur, des justifications pour le maintenant.
Oui, non, tout à fait. Mais c'est fait pour, en plus. Le texte est fait pour. Est fait pour qu'on se l'approprie comme ça. Donc, oui, c'est anachronique quand on dit que Jésus accomplit l'Écriture. C'est-à-dire que l'Écriture ne pensait pas à Jésus ou ne parlait pas de Monsieur Jésus, le charpentier, fils du charpentier de Nazareth, quand ils ont écrit ça. Mais ça n'empêche qu'il peut quand même accomplir l'Écriture. Parce que ce qu'est Jésus n'est pas étranger à ce qu'est l'Écriture. Il accomplit effectivement l'Écriture, mais après l'Écriture, en fait. Ensuite, Donc, 3, pourquoi 3 quand même? Parce qu'il y a quand même marqué 3, quoi. Ça, c'est pas inventé. Si vous voulez, c'est que pratiquement dans toutes les cultures du monde, je suis sûr qu'on va chez les Esquimaux, chez les Africains, chez les aborigènes, le chiffre 3 est spécial. Parce que, je l'ai peut-être déjà dit 1000 fois, mais c'est la seule figure géométrique stable, c'est-à-dire que si on prend un triangle, c'est la seule figure qui ne se déforme pas. Alors qu'un carré, on le sait, ça se déforme. Si on fait un carré, c'est forcément... Quoi ?
Ça peut faire un losange.
Ça fait vite un losange, voilà. Et ça peut se mettre complètement à plat. Donc, dans tous les pays du monde, toutes les charpentes sont faites avec des triangles. Il n'y a pas de secret, quoi. Alors, on ne peut pas faire autrement. Sauf maintenant, on a des matériaux beaucoup plus puissants et on peut faire l'arche de la défense. Ensuite, je ne sais pas combien de temps ça tiendra. Voilà. Sinon, ça marche avec des triangles, quand même. Normalement, quand on fait avec des bouts de bois, on fait en général... des triangles. Si on fait juste une potence carrée comme ça, il y a un coup de vent, ça tombe par terre. Alors on met deux poteaux pour faire des triangles pour que le truc se casse pas la gueule. Donc le chiffre 3 a toujours été un chiffre exprimant l'éternité, la stabilité, la solidité, donc Dieu, quoi. Et vous remarquerez dans les synagogues aussi, on représente Dieu avec un triangle, avec un œil au milieu, en fait. Alors c'est peut-être par influence chrétienne, mais je crois pas. C'est un signe qui date d'avant, c'est un signe qui date de la Mésopotamie, il faudrait demander aux spécialistes de la question, mais... Donc les Mésopotamiens, ils comptaient en base 12, en fait, à cause de ça, pas en base 10, pourtant on a 10 doigts. Oui, mais ils comptaient en additionnant avec le pouce sur les phalanges, en fait. Et donc ça faisait 4 fois 3. Vous voyez, en opposant le pouce sur les phalanges de la main gauche, des 4 autres doigts, pour ceux qui ont la chance d'avoir 4 doigts, pour ceux qui ont...
C'est quel le tétragramme, mais c'est comme ça. Le tétragramme fait de 4 lettres.
Ah oui.
Donc ils se déploient en 12 à partir de 3.
Oui, non, mais c'est ça, de toute façon. C'est-à-dire que le 12, c'est un chiffre sacré parce que c'est 3 fois 4. Et ils disent, c'est marqué dans les doigts. Je ne sais pas comment ça se fait que nos doigts soient comme ça, avec 3 phalanges. Mais du coup, le chiffre 12 est devenu un chiffre un peu magique. Et effectivement, on y reconnaît du magique parce qu'il y a du Dieu, du 3 de Dieu et du 4 de la terre, quoi. Et du coup, le 7 est aussi un chiffre un peu divin, si vous voulez, comme le 12 est divin, le 7 est divin, parce que c'est du 4 plus 3. Et donc, ça représente la création bénie, le 4 de la terre qui est béni par le 3 de Dieu. Et ça fait du 7, ou du 12 quand c'est du peuple. Vous voyez, mais il y a toujours ce 3 qui représente Dieu finalement. Donc trois hommes, oui, ça veut dire, gros clignotant, ça veut dire, bon, ces hommes, ce n'est pas des mecs normaux, c'est des hommes divins, quoi. C'est ça que ça veut dire. Ou à travers leur nombre, à travers le 1, hein, il y a quelque chose de divin qui va s'exprimer pour Abraham. Donc à mon avis, c'est ça que dit le texte littéralement. Ensuite, bref. On le retrouve ça aussi dans ce qu'on appelle le Trisagion, hein, en fait. C'est le saint, 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 trois fois saint. Ben oui, pourquoi trois fois saint? Ben parce que il est, Dieu est trois, c'est comme ça. Il est triple. Hein. Voilà. Alors ensuite, c'est vrai que les premiers chrétiens, ils cherchent à exprimer leur foi, ils cherchent à raisonner sur l'autre. Hein. Ce qui n'est pas forcément complètement naturel, parce que si vous voulez, la Bible en particulier, et l'Évangile, la Bible en général et l'Évangile en particulier, ils ne font pas tellement de spéculations sur l'être même de Dieu. Donc, de toute façon, même s'ils avaient la Trinité en tête, ils ne l'auraient peut-être pas développé comme ça, parce qu'ils ne s'interrogeaient pas trop sur l'être de Dieu. Mais quand même assez rapidement, ils se mettent à essayer de développer un peu une catéchèse, c'est-à-dire un catéchisme de base, une pensée de base qui forme l'essentiel, le cœur du cœur de la foi de Jésus-Christ. De l'essentiel, voilà. En particulier, pour évangéliser les païens qui ne connaissent rien à rien. Et donc, ils donnent un petit... Voilà, il commence un début d'élaboration. Et donc, il va y avoir au début des essais de résumé de la foi chrétienne. Alors, on a Jean 17... C'est en deux personnes, c'est en deux points finalement, ce catéchisme express hyper condensé. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que t'as envoyé Jésus-Christ. Il y a Dieu, Jésus-Christ, on est d'accord, c'est quand même plutôt genre l'essentiel quoi. Timothée, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc là, c'est vraiment... il y a vraiment que Dieu est Dieu, et puis Jésus-Christ, c'est un vrai homme qui révèle Dieu, voilà, c'est clair, c'est facile, c'est dans son jus. Et 6.13, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toute chose. Et devant Jésus-Christ qui fait une belle confession de foi, devant Ponce Pilate, de garder ce commandement, et puis il explique, voilà, un peu ce... Donc voilà, ce qui est le fondamental, c'est Dieu qui est créateur de toutes choses, et puis Jésus-Christ qui est témoin finalement, même jusqu'à la mort, donc qui est prêt à donner sa vie pour ce dont il témoigne. Donc il n'y a pas, d'abord il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas l'idée que Jésus est Dieu, que je ne sais pas quoi. Alors 1 Corinthiens 8:6, pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et puis il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Donc Jésus-Christ, c'est-à-dire Jésus est sauveur envoyé par Dieu pour toutes les générations, c'est ça que ça veut dire, Jésus-Christ. Et Seigneur, c'est-à-dire qu'on le reconnaît comme notre chef, en fait. Ça ne veut pas forcément dire qu'on le reconnaît comme Dieu, en tout cas c'est ambigu, peut-être. Par qui sont toutes choses? Donc en fait, c'est un médiateur, hein, c'est-à-dire qu'il est un canal, finalement. Mais le pour qui, c'est Dieu et Dieu seul. Donc il y a une distinction quand même là entre Dieu qui est, en fait, et Jésus-Christ qui est un moyen, plus un moyen d'aller vers Dieu, ou d'aller en Dieu, finalement. Parce que c'est eis, ce pour Dieu, pour qui nous sommes. Voilà. Alors ça peut arriver d'avoir des résumés en trois personnes quand même. Alors le plus connu, c'est la fin de l'évangile selon Matthieu. Voilà, Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Alors là aussi, c'est un gros argument qui a été utilisé pour la Trinité, parce qu'il y a effectivement le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tout bien. Et puis il y a « au nom » au singulier, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom au singulier, quoi. Donc, alors effectivement c'est assez puissant. Bon, alors
quand on dit au nom d'eux, ça veut dire quoi, en fait? Parce que vu la valeur des noms dans le système,
bah oui,
qu'est-ce que ça veut dire quand je dis au nom?
Bah, vous vous inscrivez dans la manière de faire de cette personne là dans
le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu.
Bah voilà, c'est ça, oui.
C'est l'Esprit de Dieu, c'est pas une personne en plus, c'est son esprit, c'est sa spiritualité. Enfin, je crois ce que
l'esprit
je
de
veux.
Dieu, c'est pas rien non plus, quand même.
Mais... Je crois ce que je...
Non, mais moi, je dirais ça aussi.
Hein, voilà.
Moi, je dirais ça aussi.
Ouais, c'est ce que je le vois comme ça.
Mais donc, au nom de, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, c'est...
Oh non, c'est pas que par mandat de...
Par mandat de...
Conformément à...
Surtout que là, bon, c'était un baptême, alors assez rapidement, les baptêmes, c'était en mettant de l'eau sur la tête, on le voit dans une liturgie de la Didaké, quoi, qui est donc aux environs de l'an 100, je ne sais pas c'est quand Didaké, 120 peut-être, ou je ne sais pas.
Oui, c'est ça, 120,
140, donc c'est quand même assez tôt, il y a déjà un baptême sur la tête. S'il n'y a pas assez d'eau pour plonger les gens, bon, on baptise en mettant de l'eau sur la tête, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors c'est peut-être au nom... C'est peut-être factorisé, parce que souvent, on mettait trois fois de l'eau ou on plongeait trois fois dans l'eau. Donc on disait, je te baptise au nom du Père, je te baptise au nom du Fils, je te baptise au nom du Saint-Esprit. Ou alors, comme font les cathos.
C'est un sodomat.
Oui, c'est ça. Ou alors, les cathos, ils baptisent en mettant trois fois de l'eau, je te baptise au nom du Père, et au nom du Fils, et au nom du Saint-Esprit. Donc en fait, on ne répète pas le nom d'eux. Mais enfin... Voilà. Alors c'est vrai qu'on dit que le Christ, on va donner le nom qui est au-dessus de tout nom, et donc ça peut être ça. Donc je veux dire, c'est peut-être. Alors cela dit, il n'y a aucun exégète qui pense que ce verset a été mis dans l'évangile selon Matthieu avant la fin du deuxième siècle. Donc bon, parce qu'on voit tout de suite après dans les actes des apôtres, les apôtres qui baptisent, au nom de Jésus, je te baptise. Alors si le... carrément, The Jésus ressuscité est venu leur dire, écoutez les gars, vous rigolez pas, vous allez maintenant enseigner mes paroles à l'univers entier, et vous allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 15 jours après, je veux dire, ils n'ont pas baptisé en se trompant de formule. Donc, c'est pratiquement sûr que c'est complètement apocryphe, cette idée, d'abord que Jésus ordonne de baptiser alors que lui-même ne baptisait pas, nous dit l'évangile selon Jean au chapitre 4, bon, ou alors il baptisait d'esprit, mais baptiser d'esprit saint, c'est autre chose. C'est comme vous dites, c'est ajouter une dimension supplémentaire de l'être. Donc effectivement, c'est ce qu'apporte Jésus-Christ au monde, c'est de faire que chacune et chacun de nous peut être prophète par l'esprit. Donc recevoir l'esprit, c'est ça, c'est être en ligne directe avec Dieu finalement. C'est ça que donne Jésus-Christ. Mais alors bon, ce baptême par l'esprit, ça se fait pas en église, c'est quelque chose qui se fait dans la prière. Personnel, c'est Dieu qui le donne, c'est pas l'Église. Donc évidemment, c'est pas ce baptême de Jésus que nous donnons. Donc c'est pour ça que c'est un peu étonnant. Mais enfin bref, mettons. Moi je verrais plus effectivement, il y a une confession de foi de base qui est fondamentale. Quand on fait un catéchisme dans les premières générations de chrétiens, donc entre, je dirais, la mort de Jésus, le développement par les premiers apôtres, on a fait élaborer des petits catéchismes, dont sont les images, ces textes. Hein. Et bah donc, ils ont développé, il y avait un premier chapitre, une première leçon, on parlait que de Dieu, on expliquait qui est Dieu, tout bien, et puis après on expliquait une deuxième journée de catéchisme, c'était sur Jésus-Christ, et troisième, c'était sur l'Esprit-Saint. Pour dire qu'il leur était donné à la Pentecôte, et qu'il était donné pour eux, donc ils pouvaient être en ligne directe avec Dieu, je ne sais pas moi ce qu'on leur racontait. Et donc, c'était trois volumes de catéchisme, ils étaient baptisés ensuite, crac, au nom de cette foi de Jésus-Christ qu'ils développaient. Et ils étaient baptisés en sceau, pour mettre un sceau de la vie dans cette foi-là, moi je crois. Mais... Donc c'est du catéchisme, si vous voulez, c'est du résumé de l'essentiel. Ce n'est pas une spéculation sur l'être même de Dieu encore là. On ne nous dit pas Dieu est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant soyez baptisés au nom de ce Dieu trine. Non. Donc au plus c'est une triade, c'est-à-dire c'est trois points essentiels mis les uns à côté des autres, sans qu'on en fasse une unité de ces trois points. Sauf peut-être dans le nom d'eux, effectivement. Mais sauf que bon, je crois qu'effectivement... C'est, comme on dit, par exemple, au nom des pouvoirs qui me sont conférés, au nom de la nation française, je vous remets cette Légion d'honneur. C'est impossible.
Au nom de la loi, je vous marie.
Au nom de la loi, je vous marie. Je vous salue, Marie, aussi. Bref, il y a d'autres confessions de foi qui sont donc avec les trois points, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, le Père, et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Ou bien dans Paul, il y a deux passages, effectivement, où il dit vraiment que l'unité, c'est le même esprit, le même Seigneur. Et là, quand c'est Seigneur, c'est bien Jésus-Christ, et un seul et même Dieu qui opère en tout en tous. Donc, il y a trois points. Ensuite, est-ce qu'on dit que c'est un seul et même Dieu ? Non, c'est encore trois réalités qui animent la communauté, qui animent l'Église, qui l'unissent. C'est Dieu, bon ça on est d'accord, que c'est le Christ, bah oui, la base de l'Église chrétienne par rapport à toutes les autres églises, bah c'est Jésus-Christ, c'est surtout ça, voilà. Et puis l'Esprit, c'est de dire que voilà, l'Esprit est répandu pas simplement donc pour certains grands chefs d'Église, mais qu'elle s'est répandue sur tous les fidèles et que donc il y a cette ligne directe qui... est aussi une façon, je vais dire, d'être en rapport avec Dieu. Voilà, pas à travers l'Église, mais à travers l'Esprit qui est donné à tous. Voilà. Alors, d'ailleurs, ces formules sont d'une ouverture et d'un libéralisme incroyable, hein, parce que le Dieu Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous, c'est quand même très très fort. Hein. Ça va très très loin. En tous... Bon, même dans le salaud qui ne me plaît pas et que je considère comme hérétique. Hein. Alors, il n'y a pas que dans les récits théologiques qu'on peut voir de la Trinité, mais dans des récits, par exemple, dans la Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, donc il y a Dieu. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Tiens, voilà l'Esprit. Et Dieu dit, il y a la parole de Dieu qui apparaît. Que la lumière soit et la lumière fut. Ou alors l'ange, donc c'est la parole de Dieu, dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut, de Dieu, te couvrira de son ombre. Donc on a encore une trinité, Dieu, Esprit, Parole. Et effectivement, la première trinité, la plus ancienne, du temps de Tertullien, qui invente donc le concept, la trinité, c'est Dieu, le Père, Dieu le Fils, c'est la parole de Dieu, la parole éternelle de Dieu, comme dans Philon d'Alexandrie, où la parole de Dieu est appelée Dieu second, fils aîné du Père, voilà. Ça peut se trouver peut-être aussi chez des philosophes grecs, peut-être, il faudrait regarder si on a ça chez les stoïciens, ou si on a ça chez Plotin, ou je ne sais pas quoi, enfin bref, en tout cas, ça apparaît dans le judaïsme tardif, donc Tertullien, à mon avis, va le chercher là. Parce qu'on n'a jamais dans l'Écriture, à mon avis, un passage qui appelle la parole de Dieu, le Logos, fils de Dieu ou fils éternel de Dieu. J'ai jamais vu ça, mais elle est un peu personnifiée, mais pas au point d'en faire un fils. Mais Tertullien reprend ça donc du judaïsme intertestamentaire, j'allais dire. Hein. Et puis, l'Esprit Saint, oui, comme vous disiez, Madame Kalanka, Dieu est esprit. C'est ce que je mets en premier donc, dans Jean 4, 24. Dieu est esprit, ça ne fait aucun doute, c'est-à-dire que Dieu est son souffle créateur. Il est peut-être autre chose que ça, nous n'en savons rien, mais en tout cas, il est ça. Voilà. Alors, il y a des gens qui disent effectivement l'esprit, c'est quelque chose dont on fait l'expérience dans l'acte créateur de Dieu, ou la parole de Dieu, c'est la même chose, un peu Dieu esprit, Dieu parole, je dirais que c'est presque la même chose, ou la gloire de Dieu, c'est la même chose, hein, c'est le dynamisme créateur de Dieu, l'interaction de Dieu avec la nature, avec la réalité du monde, Dieu étant hors du monde. Donc, et bonsoir François. Donc, dire que Dieu est esprit, oui, c'est une façon dont nous expérimentons Dieu. Alors ça a été mal vu de dire ça, que la Trinité, c'était des modes d'être de Dieu, c'est-à-dire que nous l'expérimentons comme Dieu, comme transcendance, on peut en avoir l'idée en tout cas, peut-être, si ce n'est en avoir le contact, ensuite Dieu comme Fils, comme parole de Dieu, on peut l'expérimenter comme se révélant, à travers des anges divers et variés, comme je vous le disais tout à l'heure, en particulier par, donc par Jésus-Christ. Et puis Dieu-Esprit, c'est à l'intérieur de nous-mêmes, donc dans cette conscience profonde et bonne qui est à l'intérieur de nous, peut-être, on pourrait dire comme ça. Alors,
une manière de nous parler.
Voilà. Oui, c'est ça.
Mais quand vous dites l'amour, c'est pareil.
Exactement.
C'est à la fois essence et manifestation. Ça ne se dissocie pas en Dieu.
Oui. Mais ce qui est difficile, c'est quand on dit Dieu est amour, on peut dire Dieu... En tout cas, je l'ai connu comme ça. Est-ce qu'il est que comme ça? C'est difficile.
Non, c'est... Et je ne l'ai pas connu que esprit.
Oui, non, c'est ça.
Ni que créateur, ni que rien.
Oui, voilà, c'est ça. Oui, à ce moment-là, c'est des modes de manifestation de Dieu.
Non exclusiviste.
C'est pas exclusif.
Il n'y a même pas de manifestation, c'est son essence et c'est l'effectuation de son essence.
D'une part de son essence, alors. D'une part de ce qu'il est, voilà.
Oui.
Parce que les gens disent, par exemple, Dieu est à la fois juste et amour. Et donc, ça devient un système un peu compliqué, vous savez, qui a été inventé ça, tardivement aussi, où Dieu rachète nos fautes par la mort du Fils. Donc, c'est une horreur, mais si vous voulez, on dit, voilà, Dieu est à la fois justice et amour. Donc, par son amour, il donne de la main gauche pour satisfaire sa main droite, sa justice. On tombe dans des machins où on n'est plus tout à fait, à mon avis, dans le monothéisme.
Et en fait, ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas de distinction entre sa nature et ce qu'il manifeste. C'est une qualité divine, parce qu'il y a toujours du déchet entre ce que nous sommes et ce que nous donnons à voir. Oui.
Mais lui, il n'y a pas de déchet.
Et donc, c'est ça, la qualité divine, ce serait cette parfaite égalité entre l'intérieur et l'extérieur.
Son essence, c'est sa visibilité.
Oui. Alors ensuite...
On va voir que ça va bouger un peu ça.
C'est vrai qu'il y a des phrases où Jésus dit l'unité avec le Père, en fait. Alors, oui, alors, je glisse un peu vite. Donc, la première trinité, c'est le Père, c'est le Dieu le Père, bon, créateur, tout bien, ou dont on ne sait pas grand-chose parce qu'il est transcendant, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Bon. Mais ensuite, effectivement, par exemple, on apparaît la parole de Dieu, on l'appelle Fils de Dieu. Eh ben, le glissement est vite fait, si vous voulez, parce que dans la Bible, ce qu'on appelle Fils de Dieu, c'est quand même Jésus, quoi, normalement. Enfin, dans les évangiles, c'est comme ça. Il est appelé surtout Fils de l'homme, c'est-à-dire Fils d'un humain normal, quoi. Mais il est appelé Fils de Dieu aussi. Donc, par exemple, on appelle la parole Fils de Dieu avec Tertullien. Ça a été repris, c'est-à-dire, mais c'est génial, ce truc, c'est puissant. Et donc, ça va se superposer, si vous voulez, avec... Parole de Dieu, Jésus est la parole faite chair dans Jean. Oui, alors, la parole faite chair, ça ne veut pas dire que c'est la parole telle qu'elle, quoi. Ça veut dire que c'est une projection de la parole, une parole qui s'incarne, c'est le plan de Dieu pour l'homme qui s'incarne en Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que là aussi, ce n'est pas toute la parole. Vous voyez, Dieu est parole, mais la parole qui se manifeste en Jésus, est-ce que c'est toute la parole de Dieu? Il a peut-être d'autres plans pour faire des extraterrestres avec une peau verte, hein. Et ça ne sera pas manifesté en Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas toute la parole. Enfin, bref. Ça vient se superposer. Et donc, dans la Bible, on ne le voit pas, finalement, tout à fait ça. Sauf qu'il y a des endroits où Jésus dit « Moi et le Père, nous sommes un », par exemple. Mais, dans le même évangile, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée ». Donc, la gloire de Dieu, c'est dynamisme créateur de Dieu. C'est cette capacité d'être créateur. Bref. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Donc à ce moment-là, si le Père et moi nous sommes un, dit par Jésus, ça veut dire que lui, il est Dieu, ça veut dire que nous aussi, on entre dans cette trinité. Du coup, ça ne fait plus trois, ça commence à faire du monde, vous voyez, dans cette affaire. Parce qu'il nous intègre dans cette trinité à ce moment-là, ce que je ne pense pas que ça dit, parce qu'ailleurs, il dit « mon Père est plus grand que moi ». Alors, il y a un passage quand même qui est un peu délicat, c'est là où il dit « afin que vous croyiez que moi je suis ». Alors, les gens disent ben, « en fait, moi je suis », c'est « ego eimi », c'est le nom de Dieu, « afin que je suis Dieu ». Bon, le problème, c'est que dans les 70, si vous voulez, le nom de Dieu, c'est pas « ego eimi », c'est « oon », en fait. C'est l'étang. Parce que le buisson ardent, Dieu, il dit « ego eimi oon », c'est-à-dire « je suis Oon, je suis l'étang. » Mais son nom, c'est Oon, c'est pas Egoimi. Et puis Egoimi, c'est l'aveugle-né, dans le même évangile, il dit Egoimi, l'aveugle-né. Donc, je suis, c'est pas exactement le nom de Dieu. Donc on peut dire, afin que vous croyez que moi je suis Dieu, les gens lisent, mais c'est un peu vasouillard. Hein.
C'est parce qu'après, dans la suite du Buisson Ardent, il y a un moment donné où Moïse dit mais alors qu'est-ce que je vais raconter au peuple ? J'ai une vision, il va dire ben, je suis m'a demandé d'eux.
Et c'est pas O'on, c'est Egoemi ?
Je pense
que c'est, je vérifie dans
c'est le probable. Septante. C'est probable. C'est effectivement, c'est, je suis qui je suis, c'est O'on, mais ensuite, peut-être que dans la deuxième phrase, on a peut-être une chance de trouver un Egoemi.
Ah, alors ça donnerait des points. Donc ensuite, c'est vrai qu'il y a des cas où Jésus, par exemple, est vraiment différent du Père. Par exemple, quand il prie, non ma volonté, mais la tienne, ou bien, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Alors là, les gens disent, oui, c'est qu'en fait, il est à la fois vrai Dieu et vrai homme, Jésus. Et donc, c'est le Jésus-homme qui doute du Jésus-Dieu. Bon, si vous voulez, ça fait, Jésus est schizophrène, quoi. Je veux dire, ça se soigne difficilement, mais ça se soigne quand même, la schizophrénie. Et donc, ça veut dire que Jésus a une sorte de grave dédoublement de personnalité, se mettant à douter de sa part divine. Enfin, je ne sais pas trop, mais moi, je trouve que c'est quand même complexe, quoi. Donc, Jésus, il est fils comment ? Voilà, il est fils parce que nous, on est tous fils parce que Dieu est source de la vie. Deuxièmement, il est fils adoptif. Parce que c'est par l'amour que Dieu nous adopte, même si on n'a aucune et si on ne ressemble absolument pas à Dieu. Et puis on est aussi fils par l'Esprit, c'est-à-dire que l'Esprit crée en nous ce que Dieu espère, hein, c'est-à-dire un être enfin capable d'aimer, par exemple. Et du coup, il a cette caractéristique de liberté, de créativité, d'amour, qui sont des caractéristiques divines, donc des qualités théologales, on dit, pour reprendre l'apôtre Paul. Dans 1 Corinthiens 13, on dit que c'est les vertus théologales, la foi, l'espérance et l'amour, c'est des qualités propres même de Dieu qui sont qui est vécues par l'homme. Donc, oui, c'est ça. Donc, voilà ce que j'ai trouvé, moi, en tout cas, pour la Trinité, dans les Écritures. Ça peut... Voilà, c'est, du coup, la Trinité n'est pas du tout illogique par rapport à
la
ça.
La Trinité existe.
Mais... c'est une extrapolation, voilà, de ça. Elle n'est pas marquée telle qu'elle.
La théologie du process est assez unitarienne, en fait. Carrément. Ou polythéiste, à la limite. Mais ça varie entre les deux, finalement. C'est-à-dire qu'en fait, elle a une métaphysique différente. C'est qu'elle ne s'intéresse pas à la divinité en tant qu'être individualisé. Oui, c'est ça. Que ce soit un mouvement, que ce soit un process, que ce soit une dynamique, etc. Ça ne se joue pas dans les catégories de l'être, par exemple, pour prendre un terme qu'on a utilisé là. Et d'ailleurs, on ne va pas parler de process ce soir. Alors, je commence par un petit parcours historique pour prendre en fait la continuation, hein, avec quand même une mise en garde dans le sens de ce que disait Marx, c'est que la Trinité, on peut la trouver un peu partout finalement. On peut même la trouver chez Hegel avec la thèse, antithèse, synthèse, puisque la thèse, c'est finalement Dieu le Père qui donne. Ensuite, l'antithèse, c'est la kénose, la rétractation du Fils. C'est un mouvement inverse. Puis après, il y a un redéploiement, c'est la synthèse, avec l'Esprit. Bon. Ce que je vais essayer de vous... Non, mais quand je vous dis ça, c'est pour vous dire qu'on peut effectivement trouver de la Trinité partout. Je vais essayer de vous parler avec bienveillance de la Trinité dans la théologie majoritaire, disons. Celle qui a développé cette théologie de la Trinité. Et développer une théologie, vous voyez, à la fois, il y a un côté fiction, c'est une construction, mais c'est pas négatif. C'est qu'on essaie de mettre en place un discours pour rendre les choses plus compréhensibles. C'est une sorte de pédagogie. Il faut, je crois, avoir cette bienveillance-là de se dire que beaucoup se sont efforcés de développer la Trinité pour essayer d'expliquer ce qu'ils comprenaient par le mot Dieu, qui est effectivement quelque chose d'assez énorme. Le problème, c'est quand le discours, qui est un discours balbutiant, est figé et devient doctrine, voire dogme. Donc, ces différents théologiens qui se sont succédés, et puis surtout les conciles qui ont validé telle ou telle position, les conciles d'ailleurs, finalement donnent deux écueils. Le premier écueil, c'est le trithéisme. Hein, on l'a évoqué, finalement, le fait qu'il y aurait trois divinités qui font leurs affaires ensemble. Et puis, l'autre écueil qui est finalement condamné par les conciles, c'est pas l'unitarisme, au sens où il y aurait qu'un seul Dieu et on s'en fiche de la Trinité. Non, ça serait le modalisme. Le modalisme, c'est cette idée selon laquelle les trois personnes seraient trois manières que les hommes ont de se représenter Dieu. Trois modalités d'existence. Trois manières que Dieu aurait d'être présent parmi les hommes. Et ça serait condamné parce que c'est insuffisant. Insuffisant un peu par rapport à ce que vous disiez sur la relation entre la nature et la manifestation de Dieu. Parce que la Trinité, elle va s'efforcer de dire quelque chose de l'être de Dieu. Et c'est là l'objectif. Alors, ce qui est frappant et symptomatique, c'est que quand on s'intéresse aux historiens de la théologie, notamment les historiens catholiques, quand ils parlent de la Trinité, ils parlent du mystère de la Trinité. Et ils en parlent même souvent du mystère au sujet de la Trinité. Et ça, c'est suspect. C'est un peu comme un signal disant ça va non seulement pas être très clair, mais en fait, il y a plus de construction personnelle que de fondement biblique, théologique. Le mystère, c'est une façon de dire c'est à croire plutôt qu'à comprendre. Et ça, c'est quand même assez problématique. Alors, au IIe siècle, on a les premiers éléments de Trinité. Donc, IIe siècle, c'est quand même, vous voyez, assez rapide. Je vous passe un document. C'est les premières confessions de foi, en fait, avec Clément de Rome, qui va utiliser une formule trinitaire. Je crois en Dieu, le Père, le Tout-Puissant, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, et au Saint-Esprit, la Sainte Église, la résurrection de la chair. Donc vous voyez, la Trinité existe déjà, là. Et Clément de Rome va avoir une formule qui va être utilisée après, notamment pour les baptêmes. Ce que dit Clément de Rome dans une lettre aux Corinthiens, c'est « N'avons-nous pas un seul Dieu, un seul Christ, un seul Esprit de grâce qui a été répandu sur nous ?» Et toujours au IIe siècle, on a quelqu'un comme Irénée de Lyon qui, vers 180, va écrire un premier exposé de ce que l'on pourrait appeler la foi trinitaire. Et qui devient la règle de foi pour le baptême. Donc les baptêmes seront administrés avec cette foi exprimée de façon trinitaire, avec les trois questions que l'on trouve notamment sous la plume d'Hippolyte de Rome, c'est en dessous là. Et c'est un usage, c'est encore en usage dans l'Église catholique. Crois-tu en...
Mais là c'est pas trinitaire, c'est triadique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de spéculation sur l'unité de Dieu des trois personnes.
Alors, chez Irénée, oui. Et là, c'est quand même l'idée qu'on est baptisé au nom d'un seul Dieu. Donc, s'il y a un seul Dieu et que c'est au nom de trois, c'est quand même les prémices de la Trinité. Il faut bien qu'il y ait du trois en un, là. Parce qu'ils ne sont pas trithéistes, nos pères apologètes. Donc, Hippolyte de Rome, là, c'est quand même la question de ce qui est l'objet de la foi, et en dehors de l'Église qui apparaît tout à la fin, on est quand même, a priori, je pense, sur quelque chose qui est de l'ordre du théologique.
La formule est quand même très curieuse. Née par le Saint-Esprit de la Vierge Marie. Je ne sais pas si dans le texte latin c'est un génitif, mais c'est un peu singulier.
Ben, c'est-à-dire que le génitif... Oui, non, ce n'est pas un génitif, on le voit dans le symbole des apôtres.
Saint-Esprit qui est...
C'est « il est né de la Vierge Marie par l'action du Saint-Esprit ». Par le Saint-Esprit, il est né de la Vierge Marie, en fait. Et si la Trinité va finalement se préciser, c'est parce qu'il va y avoir, de la part d'un juif, par exemple, Tryphon, des questions pour interroger cette curiosité théologique. Et il va se demander comment on peut dire que le Christ est Dieu, sous-entendu Dieu à côté du Dieu unique. Il y a quelque chose qui interroge et même blesse son monothéisme, en fait. Donc c'est Justin qui va répondre. Et alors, c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est plutôt, vous voyez, une construction intellectuelle pour justifier que le Christ Jésus soit divinisé, en fait, soit Dieu. Il va dire, prenez les théophanies de l'Ancien Testament. Donc c'est Dieu qui se manifeste, on en a eu quelques-unes là. Et je le cite dans son dialogue, dire que l'auteur est père de l'univers. Donc il parle de Dieu le Créateur. Dire que l'auteur et père de l'univers aurait abandonné les espaces supracélestes pour apparaître en un coin de terre, personne ne l'oserait. Donc c'est la question de la conjonction du divin et du terrestre ou de l'humain. Il apparaît que Dieu en soi, Dieu tel qu'il est, ne peut pas apparaître. D'ailleurs, les textes de l'Ancien Testament le disent bien, nul ne peut voir Dieu et vivre. Et du coup, la transcendance de Dieu ne lui permettant pas d'apparaître lui-même, ça va être sous une manifestation qui est le Christ, en fait. Du coup, l'idée de Justin, c'est que dès l'Ancien Testament, lorsqu'il y a une théophanie, c'est le Christ qui est en relation avec les témoins bibliques. Cette idée-là, on le trouve bien sûr sous la plume de gens comme Origène, qui font des lectures typologiques de l'Ancien Testament et qui vont même voir dans le rocher qui est frappé par le bâton de Moïse et duquel sortira de l'eau, une figure du Christ, par exemple.
C'est Paul qui le dit, oui.
Et Origène va embrayer là-dessus et voir du Christ dans beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce que, finalement, Dieu reste nécessairement enfermé dans sa majesté, dans sa souveraineté. Et on n'y a accès que par ce qu'on va appeler une hypostase, finalement. Quelque chose qui est sous la substance de Dieu. C'est pas négatif, une substance, ce qui se tient dessous, une hypostase. C'est... comment dire ? Ça va être problématique ensuite parce que ça va conduire à du trithéisme, mais vous allez voir. Mais c'est l'idée selon laquelle on n'a pas accès à l'intégralité de Dieu. On a accès à Dieu lui-même, mais pas à l'intégralité de Dieu. Donc, quand Dieu est apparu, c'est le Fils, Verbe du Père, qui est apparu, en fait. Et alors, il va y avoir une spéculation supplémentaire au sujet de ce verbe, de ce logos, qui ne va pas faire histoire, mais je vous le donne quand même. Il y a un moment donné où on se dit, le logos connaît deux états successifs. Enfin, c'est très sophistiqué. Il existe comme verbe immanent en Dieu. Autrement dit, c'est la capacité du divin à communiquer. C'est la capacité du divin aussi à raisonner, à avoir une action logique. Le logos, c'est tout cela. Ce n'est pas simplement le fait d'être une pipette, quoi. Et ça, c'est en Dieu, c'est immanent. Et puis ensuite, c'est un verbe qui est proféré, hein, qui est donc porté au-devant d'eux. Et ça, c'est un deuxième état successif. Enfin, c'est un deuxième état. Et ça rejoint un peu ce qu'on a vu sur la sagesse personnifiée. Et d'ailleurs, la sagesse, le logos, c'est un peu la même idée, finalement. Donc, vous avez tout le chapitre 8 hein, que vous pourriez prendre. Moi, je vous mettrais bien le verset 22, comme ça, à ruminer. La sagesse ou le verbe qui était auprès de Dieu, qui était en fait la chose de Dieu, et qui est proféré, et c'est ça qui est accessible, c'est ça qui est disponible pour nous, les hommes et les femmes. Et du coup, on a le verbe qui, effectivement, participe à l'activité créatrice du Père. Et qui, du coup, n'est pas confiné dans le Jésus de Nazareth, fils de Marie. C'est ce que dit Jean hein, dans le prologue. Il était auprès de Dieu de toute éternité, finalement. Il est préexistant, quasiment. Donc, cette idée des deux états du Logos ne va pas être retenue de toute façon. À cause d'Irénée, notamment, Irénée de Lyon, hein, donc toujours fin du IIe siècle, qui refuse de spéculer sur l'origine du Fils de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il lutte contre les gnostiques. Et les gnostiques, ils proposent un Dieu duel. Le Dieu bon et le Dieu juste, éventuellement, ou le Dieu bon et le Dieu mauvais. Enfin, vous pouvez avoir plusieurs alternatives. C'est ce que je disais entre le Dieu bon et le Dieu juste. Marçon disait le Dieu juste de l'Ancien Testament et le Dieu bon du Nouveau. Mais plus généralement, c'est le Dieu bon et puis un autre démiurge qui est à l'origine du mal. Le mal comme substance, d'ailleurs. Donc, il va défendre la thèse du Dieu unique, le Père, tout en maintenant l'existence du Fils et du Saint-Esprit comme ses deux mains. C'est-à-dire comme des instances qui assistent le Père dans son œuvre de création. Au IIIe siècle, on se retrouve avec les débats sur le Christ comme Dieu ou pas, parce que ça heurte un peu la sensibilité monothéiste de pas mal quand même. Donc, deux possibilités. Soit on nie que le Christ soit vraiment Dieu, et on le tient pour homme que Dieu aurait adopté pour fils. Voilà. Donc ça, c'est dès le IIIe siècle, Paulette Kalanka qui devient adoptionniste. Soit c'est nier qu'il se distingue vraiment du Père et le tenir pour une manière d'être de Dieu. Et du coup, le Fils et le Saint-Esprit ne seraient que deux visages du Dieu unique. Parce qu'on est dans l'idée où Dieu-Père, c'est la même chose. C'est avec Augustin qu'on va passer du Dieu-Père au Dieu Trinitaire. Mais on a le Dieu-Père, et puis après, on se demande ce qu'on fait du Fils et du Saint-Esprit. Et donc, on en fait deux visages possibles. Ce qui n'est pas loin du modalisme dont je vous parlais tout à l'heure. Il va y avoir une réaction par le subordinationnisme. C'est-à-dire que on refuse que le Fils et le Saint-Esprit se distinguent du Père en étant subordonnés au Père. Et s'ils sont que deux visages, du coup, une sorte de dégradation, quoi. On y perd en qualité d'être. Donc il y a une sorte de subordination du Dieu-Père sur le Fils et le Saint-Esprit. Donc vous voyez, on est dans l'élaboration du concept de la Trinité. On essaie de trouver le bon équilibre pour pouvoir parler de Dieu en utilisant ces trois figures qui, finalement, sont entrées dans les mœurs. Et on ne songe pas à une quatrième figure ou une quatrième instance, ou on ne songe pas à en récuser une. Donc, finalement, on va utiliser la méthode classique, c'est la méthode du paradoxe. La méthode du paradoxe, c'est aussi bien celle d'Hippolyte de Rome. Dieu est seul et pourtant multiple. Voilà. Débrouillez-vous avec ça. Et comprenez que le mystère est bien pratique. Soit Tertullien qui le dit autrement. Dieu est seul et pourtant il n'est pas seul. Seul peut être compris comme unique. Dieu est unique et pourtant il n'est pas seul. Je le cite dans ce fameux ouvrage contre Praxias. C'est le propre de la foi judaïque que de croire en un seul Dieu, en refusant d'y ajouter le Fils et le Saint-Esprit. Quelle est la substance du Nouveau Testament, sinon que désormais le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont crus trois à faire comparaître un seul Dieu. Dieu a voulu innover son testament en sorte d'être cru unique d'une manière nouvelle par le Fils et l'Esprit. Autrement dit, c'est l'introduction d'une volonté divine de la composition du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament comme recueil quasiment coranique. C'est-à-dire que le Nouveau Testament intégrerait les éléments qui disent l'être de Dieu. Donc en fait, ça devient un ouvrage dogmatique. Et introduire le Fils et le Saint-Esprit pour une nouvelle alliance, hein, pour montrer qu'on fait du neuf.
C'est l'alliance qui crée plutôt que le testament, c'est quand
même... Bah, alliance et testament, c'est la même chose, en fait.
Oui, c'est qu'on entend testament dans les textes, l'alliance, on
ne voit pas finalement... Oui, c'est le processus. Oui, mais il y a la nouvelle alliance dans le corps et le sang de Jésus, en fait.
Hein, c'est-à-dire... La nouvelle relation, le nouveau mode de fonctionnement.
Oui, si ce n'est que force est de constater qu'il y a du Fils dans l'Ancien Testament et de l'Esprit a fortiori. C'est un argument un peu spécieux, quand même. Et... on est en fait dans des querelles anti-judaïques. Et on cherche à la fois à ne pas être martionnite et à la fois à se démarquer. Et en fait, il faut bien reconnaître que de ce point de vue-là, la Trinité va être un bon point de démarcation pour ceux qui veulent se démarquer à tout prix. Ceux qui ne veulent pas être dans la position de Paul qui va considérer que le christianisme est un rameau qui vient de la souche israélite. Là, c'est un peu comme si on faisait toute chose nouvelle ou qu'on injectait quelque chose de radicalement neuf, qu'on était les seuls à avoir. Et du coup, le judaïsme serait pris en défaut de révélation. C'est avec Origène qu'on va parler des trois hypostases. Alors, hypostase, substance, hein, les termes vont être un peu... synonyme selon la langue que les auteurs vont utiliser. Trois hypostases pour affirmer en fait l'existence propre du Fils et du Saint-Esprit. Ce qui permet d'éviter ce que je vous ai appelé le lien de subordination ou une sorte de dégradation. Et c'est aussi essayer de trouver le point d'équilibre hein, qui est cette chose si compliquée dans la Trinité. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on y soit bien arrivé. Le concile de Nicée, 325, va développer ce texte que vous avez sous les yeux, bon, assez connu, assez pénible. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, visibles et invisibles. En un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique, c'est-à-dire le Fils de Dieu, né du Père comme Fils unique, c'est-à-dire né de la substance du Père, Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait, ce qui est au ciel, ce qui est sur la terre, qui, pour nous les hommes et pour notre salut, est descendu, a pris chair, et ça sera, après on connaît. Puis le Saint-Esprit vient comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Donc vous voyez, il y a toute une argumentation qui sera retenu avec un mot-clé, l'homoousion, consubstantiel, de même substance. Homo, même, ousia, la substance, l'essence, il est de même essence. En fait, à partir de Nicée, le point d'équilibre commence à être trouvé, avec ses usages des termes ousia, donc ou substance. Et un prêtre à Avignon m'avait expliqué finalement comment il faut comprendre la Trinité. Il me disait, sur le cours principal, là, il y a des platanes. Et chaque platane a son tronc, et après, il y a trois branches qui partent. Ben, chaque branche, c'est du platane. C'est consubstantiel. Pourtant, chaque branche est distincte. Enfin, les trois grandes branches. Chaque grosse branche est distincte. C'est une pédagogie, hein. Il ne faut pas juste la dogmatiser, quoi.
Mais avant que la dogmatie soit solidifiée, comme ça, c'était que contre Poisson d'eau, c'était écrit.
Là, ça va être contre toutes les hérésies possibles et inimaginables. Oui, les fameux adoptionnistes, les ébionites, ceux qui vont dire Jésus n'a pas souffert.
Ce que je veux dire aussi, c'est que derrière ça, on n'affirme rien positivement, finalement, c'est que de la négation d'autre chose.
Non, dans ce texte, c'est positif. Il faut reconnaître à Nicée d'avoir dit les choses positivement. Lumière de vraie lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, etc. En revanche, on trace la frontière au-delà de laquelle on est condamné. Et on va le voir avec Nicée-Constantinople, puisqu'on va rajouter l'anathème à la fin. Donc, les choses sont dites positivement, mais si vous n'adhérez pas à cela, alors vous êtes rejeté. Et puis, il va même y avoir un schisme entre Occident et Orient. Enfin, un schisme. Il va y avoir un désaccord entre Orient et Occident sur la question du filioque. On va avoir ça juste un peu après.
Mais c'est quoi, exactement ?
Je vais vous dire ce que c'est le filioque. Mais je vous le dirai quand on arrivera à Thomas d'Aquin. Et on fera un petit retour en arrière. Parce que c'est un peu le bazar.
Mais ici, la décision a été prise à la majorité. Il n'y avait pas eu unanimité, je crois.
Oh, oui. Les décisions se prennent à la majorité, mais une fois que les décisions sont prises, sont appliquées.
Pour tout le monde.
Et ça
bouge. Si, ça va bouger un peu. Mais c'est toujours la majorité qui sera assez intransigeante à l'égard des minorités. C'est pour ça que vous disiez, je vais essayer de vous présenter avec bienveillance la position de l'Église majoritaire. Ce qui est pour nous quand même une sorte de chemin de croix. Alors, Augustin, pour justifier le non-trithéisme, va parler d'analogie psychologique. Et en fait, il va reprendre justement le texte de Genèse 1, « Faisons l'homme à notre image ». Il y voit en fait une sorte de dialogue intérieur. Il voit une vie intérieure de l'homme, de sa psychologie, et il fait une analogie par rapport à Dieu. Donc vous voyez, il y a une sorte de symposium. Et du coup, tout ce qui fait la divinité, à la fois il y a une divinité, mais il y a du pluriel, et ben, se met en accord pour agir. Et du coup, toutes les triades que l'on rencontre seraient en fait des traces de la volonté de Dieu, des traces du divin. Toutes les triades seraient comme ça des traces du divin. Une triade parmi d'autres, mémoire, intelligence, volonté. Et en fait, ce sont autant d'éléments qui, vous voyez, se conjuguent pour accomplir quelque chose. Et du coup, Dieu agit en étant la conjugaison d'une multiplicité de je ne sais pas quoi. Mais, là encore, je tiens ça d'un professeur de théologie catholique qui enseignait en séminaire, qui me disait, au fond, ce qui est intéressant dans la foi trinitaire, c'est qu'il parle d'un Dieu qui est relationnel. C'est-à-dire qu'il est par nature relationnel. Et Grégoire de Nazianze va un peu dans cette idée-là. Grégoire de Nazianze dit Père n'est ni un nom de substance, ni un nom d'action, c'est un nom de relation.
Et ça va avec le fait qu'il soit amour, on ne peut pas l'aimer tout seul.
Oui.
Ah oui, ça
oui.
Semble évident, non?
Alors, moi, ce qui me semble évident, c'est que. On s'aime, oui. Moi, ce qui me semble évident, c'est qu'il faut un objet d'amour. Mais on pourrait imaginer que un Dieu unique sans Trinité puisse aimer l'humanité. Bon. Mais là, en fait, vous voyez, c'est comme s'il y avait un moteur interne. C'est-à-dire qu'il y a l'amour du Père et du Fils qui, en fait, déborde sur l'humanité. Pour essayer... En quelque sorte, oui. Parce qu'il y a Nicée-Constantinople qui va revenir par là, et ça va pas être une figure aussi triangle équilatérale à cause des processions, mais on va y venir. Donc Augustin va distinguer en Dieu les noms absolus qui conviennent aux trois personnes, par exemple Dieu, grand, bon, ça sont des noms absolus qui disent un peu la qualité de Dieu. Et puis il y a des noms relatifs qui distinguent les personnes entre elles, Père, Fils, Esprit. Et puis après, des noms relatifs qui expriment un rapport original entre Dieu et la créature. Donc ça, c'est tous les attributs qu'on va pouvoir lui donner. Bon, j'en viens à Thomas d'Aquin. Donc Thomas d'Aquin, là, on est dans le Moyen-Âge. C'est le grand théologien qui va faire une somme qui est une des figures de référence des dominicains. Il l'est lui-même, oui. Alors, il va parler de la Trinité sous trois aspects, et le premier qui nous intéresse le plus, parce que ça apporte une donnée nouvelle par rapport à tout ce qu'on vient de dire, c'est l'histoire des processions. Le Verbe procède du Père, selon un acte d'intelligence. Puis, un acte de volonté aboutit au Saint-Esprit. Donc, ça signifie la chose suivante, c'est que Dieu engendre le Fils en se connaissant lui-même. Mais c'est pas très loin des histoires des théophanies du Premier Testament. C'est-à-dire que finalement, quand on prend conscience de nous-mêmes, vous voyez, une sorte de projection. Eh bien, le Fils, c'est une sorte de projection de Dieu. En prenant conscience de lui-même, il y a une sorte d'émanation. Prenez pas les mots au pied de la lettre, parce que quand je dis émanation, je pense qu'un théologien orthodoxe me flinguerait sur place, mais je sais de l'approcher au mieux, quoi. Et ensuite, retenez bien ce verbe, Dieu spire le Saint-Esprit. En fait, vous allez comprendre que spire, c'est bien du latin spiritio, la respiration, le souffle, spirit. Et Dieu spire le Saint-Esprit en s'aimant lui-même. Et si Dieu s'aime lui-même, c'est-à-dire que le Père aime le Fils et le Fils aime le Père, et donc le Saint-Esprit procède du Père et du Fils en Église occidentale. C'est là que je vous propose de faire un petit retour en arrière, en 381, au Nicée de Constantinople. Donc, nous croyons en un seul Dieu, etc. Et puis, je vous ai pas mis ce qui... Alors, je vous ai mis l'anathème qui apparaît à la fin. Celui qui déclare que le Fils de Dieu existe à partir d'une autre hypostase ou substance, ou qu'il est créé, ou qu'il est altérable ou immuable, l'Église catholique les anathémise.
Mais il y a et vous voyez dans le deuxième, enfin dans le premier paragraphe, la fin c'est et en l'Esprit Saint. Et en fait, il y a, je dirais, il y a une variante. Il y a la formule classique qu'on connaît occidentale qui est à droite. Dans la formule CEF, ça veut dire Conférence des évêques de France. Donc, Conférence des évêques de France, c'est celle qui est employée aujourd'hui à la messe, par exemple. Donc, vous voyez, je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie, il procède du Père et du Fils. Eh bien, les églises orientales ont il procède du Père. Elio filioque, c'est et du Fils.
Les deux en...
L'amour mutuel du Père et du Fils permettent la procession du Saint-Esprit. Ouais. Mais peut-être que le terme de relation reste le meilleur terme, parce que c'est dans les relations que Thomas d'Aquin va repérer les personnes. Donc là, il y a un peu de théologie de process quand même. Mais pourquoi ? Parce que il ne faudrait pas considérer que ce sont des états. Ça serait contraire à ce qu'est Dieu. Donc, ce ne sont pas des états, ce sont plutôt des...
Cognitions.
Des
cognitions.
Pourvu que ce soit du mouvement.
Dynamique.
Ouais, dynamique, c'est un terme trop contemporain, mais... je ne sais pas si je gardais un petit bout de ça, mais...
Des évolutions, peut-être, un développement.
Ouais, en tous les cas... si, c'est dans un texte de Karl Barth que je vous ai photocopié après. Donc on va se le retrouver vite fait. Enfin, je vais vous le laisser, on ne va pas l'étudier. Enfin, je vous le retrouve aussi. Attendez. Un acte, voilà. Il oppose l'acte divin à l'état. Donc il faut que ça reste des actes. Et donc, que va dire Augustin ? Qu'en Dieu, il y a quatre relations réelles. Du Père au Fils... Il appelle ça une génération active, c'est la paternité. Du Fils au Père, c'est une génération passive, c'est la filiation. Du Père et du Fils au Saint-Esprit, c'est une spiration active. Et du Saint-Esprit au Père et au Fils, c'est une spiration passive. Vous allez me dire quatre relations et trois personnes. C'est qu'en fait, la spiration active... ne produit pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est dans l'aspiration passive. Alors, les quatre relations, c'est génération active, c'est la paternité, donc du Père vers le Fils. Ensuite, on a du Fils vers le Père, c'est passif. Et puis ensuite, on a l'aspiration active, c'est donc du Père et du Fils vers le Saint-Esprit. Et puis passif, c'est l'inverse. Et alors, dans le dictionnaire de théologie catholique, on dit que les personnes donc de la Trinité existent dans un rapport mutuel entre elles, mais aussi en elles-mêmes et pour elles-mêmes. Tout le monde y trouve son compte, je veux dire.
Oui, sauf que je ne voudrais pas... oui, les biologiens que je suis, mais... à partir du moment où on soit Dieu comme un Dieu personnel, une personne qui est en trois personnes, on y trouve son compte à condition d'accepter des contradictions.
Oui, bien sûr.
Pourquoi d'ailleurs on parle de mystère ?
Mais justement, je pense qu'il va y avoir une telle exacerbation de la théologie trinitaire qu'on va arriver à un rejet du Dieu personnel. Et c'est là qu'il y a un changement de métaphysique, notamment avec la théologie du process. Parce que Dieu n'est plus un Dieu personnel au sens où il serait une personne. Il est un Dieu personnel au sens où il fait de nous une personne. Ce qui change quand même la perspective. Mais, à mon avis, ce qui est le plus problématique dans la Trinité, c'est la somme des efforts pour sauver la Trinité. C'est-à-dire que finalement, la Trinité serait bien plus acceptable si on ne déployait pas autant d'ingéniosité pour essayer de la justifier. Parce qu'une bonne théorie a besoin d'être expliquée, d'être fondée, mais pas d'être rejustifiée à l'infini, quoi.
C'est-à-dire qu'effectivement, Jésus est fils de Dieu. Bon, il est homme, il est Dieu. Est-ce que finalement tout ça, est-ce que toutes ces querelles, est-ce que toutes ces réflexions ont véritablement d'importance ?
Non, j'ai pas d'hypostase, mais j'ai une hypothèse.
Quand je dis ça, c'est je
ne sais pas. Non, mais je suis prêt dans ton sens, mon petit Frédéric. Ouais. C'est que, à mon avis, l'histoire du christianisme et des christianismes montre que c'est une question de jeu de pouvoir. Et à mon avis, une bonne façon de comprendre comment se fonde la doctrine chrétienne, alors vous me passerez ou vous ne passerez pas l'anachronisme, peu importe, vous regardez la scène politique. Et la question est de savoir qui adhère à quoi. Je prends un exemple récent, la déchéance de la nationalité. Bon. Eh bien, est-ce qu'on arrive à créer une majorité autour de ça ou pas ? Eh bien, c'est pareil, à mon avis, avec la question du filocoué, par exemple. Est-ce qu'on va réussir à dégager une majorité, et de préférence, une majorité contre telle ou telle personne ? Et donc, l'idée, c'est de créer des abcès de fixation. Et donc, on en vient, vous voyez, à une situation assez perverse, c'est qu'en voulant parler de l'être de Dieu, on en vient à toute autre chose. C'est qu'on en vient à créer des chimères. Mais on a quand même des théologiens qui font preuve de bonne volonté et de sincérité, et qui, à partir de choses perverses, peuvent reconstruire une théologie, peuvent refonder une pédagogie utilisable. À mon avis, c'est ce que quelqu'un comme Karl Barth va essayer de faire. Parce qu'il n'était pas dans un jeu de pouvoir, il était dans un jeu d'opposition, il avait des comptes à régler avec le libéralisme, par exemple. Mais il n'est pas dans un jeu de pouvoir avec des conciles, des synodes, etc. Il est finalement assez libre de dire ce qu'il a envie, en n'oubliant pas qu'il veut un peu régler ses comptes avec ses maîtres. Donc je vous passe une double feuille avec des extraits de sa dogmatique sur les questions de Trinité. Donc, vous lirez ça tranquillement chez vous. Je vous dis juste une chose encore, pour que vous ayez toutes les données sur la Trinité. On parle de Trinité immanente et de Trinité économique. Si vous voyez ça, en fait, c'est assez simple. La Trinité immanente, c'est Dieu en lui-même, ad intra, comme on dit. Donc la Trinité immanente, c'est le Dieu en soi. Depuis le XVIIIe siècle, il semblerait que tout le monde soit à peu près d'accord, à la suite d'Emmanuel Kant, pour dire qu'on ne connaît pas une chose en soi. Donc le mystère de la foi est le seul qui peut permettre d'avoir accès à la Trinité immanente. Ou alors elle se révèle. Il y a un acte de révélation surnaturel, etc. Et la Trinité économique, c'est le ad extra. Donc c'est les œuvres en rapport avec la création, en rapport avec l'homme. Donc c'est ce que nous sommes en capacité d'observer. Donc, dans la minute qui reste, vous dire peut-être un mot sur chaque paragraphe, une sorte de titre que vous pouvez mettre, comme ça vous saurez si vous avez envie de les lire ou pas. Le premier, c'est justement la question de la nouveauté en Dieu. Vous voyez, finalement, la Trinité, elle sort d'où ? Ben, elle sort de cette idée que s'il y a une révélation parfaite, il y a une nouveauté en Dieu qui s'exprime. Ensuite, le deuxième paragraphe, qui n'est pas de Karl Barth, mais qui est une sorte de reprise, c'est justement que la Trinité immanente est égale à la Trinité économique chez Karl Barth. C'est un peu ce que vous disiez. La nature de Dieu est égale à sa manifestation. Et il va vraiment insister là-dessus. Pourquoi ? À mon avis, c'est pour sauver le christocentrisme. C'est-à-dire pour dire que c'est tellement énorme qu'il n'y a qu'en Jésus-Christ que c'est observable.
De toute façon, c'est pour un débat, la Trinité, c'est la Christologie. Enfin,
si c'est le point de départ. Ben non, pas du tout.
Parce qu'on a un problème avec quelqu'un qui est un peu pas comme d'hab, et c'est là qu'il y a un truc qui se passe.
Parce oui, non, c'est vrai.
Si c'est juste un prophète lambda, il n'y a pas de question, parce qu'on est déiste, on ne se pose pas la question.
Si ce n'est que, par exemple, le Dieu Père va faire Florès jusqu'au 5e siècle. Ce qui pose... D'ailleurs, en fait, ça ne pose pas tant de problèmes que ça, au départ. La christologie, elle pose problème, justement, quand la Trinité s'élabore.
Si, elle pose des problèmes avec tous les écrits gnostiques du second siècle, elle pose problème avec...
Oui, mais la Trinité est déjà en place...
C'est ça, en fait, des problèmes qui tournent autour de la nature du Christ.
Oui, mais la Trinité, elle voit le jour indépendamment de ce problème gnostique, par exemple. Oui, mais il y avait déjà du Christ avant Jésus-Christ.
Oui, mais justement ce Christ présent avant Jésus-Christ prouve qu'effectivement le judaïsme était dans l'erreur en considérant que l'altérité était absolue entre Dieu et les hommes.
Moi, je le dirais à l'envers, c'est pour insister sur cette altérité radicale, on va en faire des tonnes. On va en faire des tonnes. Et on va en fait élaborer une théologie qui permet d'asseoir cette singularité radicale.
Donc, pour quel temps on est à ce moment-là, on dit que il y a quand même un effort considérable pour rester avec Dieu 1.
Oui. Bah parce que.
C'est un tourment dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on va prendre un concept de ça. On parle quand même de Dieu, donc c'est normal, c'est un peu compliqué. Pour moi, c'est pas un argument de faux. Que ce soit compliqué, parce que ça concerne Dieu, donc déjà de l'homme, c'est pas simple. Donc, mais ce que je comprends, c'est pourquoi c'est si invalide de faire cette recherche-là.
C'est qu'en fait, on est dans un système de filiation. Et on est quand même dans une filiation avec un judaïsme. Jésus est juif, hein, je vous le rappelle comme ça, mais vous le savez. Où on professe un Dieu un. C'était un bon à rien, lui aussi. Ouais. Donc, lui-même va reprendre ça à son compte. Forcément, ses disciples sont un peu coincés, en fait. Enfin, ils sont un peu coincés, je ne sais pas s'ils sont coincés, mais en tous les cas, ils le prennent tel quel.
C'était pas si... parce que nous, c'est une image du judaïsme extrêmement...
Ouais.
Comme si c'était un seul bloc, alors qu'il y en a plein, ne serait-ce que maintenant, il y en a plein des judaïsmes. Et à l'époque aussi. Et à l'époque, il y a des Zénéchiens,
les Zénéchiens,
ceux qui suivaient
l'homme,
avec l'idée du fils de l'homme comme plus ou moins divinisé, pas le fils de l'homme en tant qu'homme banal. Il y a l'idée du. Il y avait les Zélotes qui voyaient le Messie politique, il y avait plein d'acceptations différentes du Messie, de plein de choses.
Oui.
Et en plus, il y a une sorte de dualité, il y avait même des bidieux ou des trucs, c'était pas forcément complètement toujours.
Disons qu'il y avait une sorte de plérôme, mais il y avait au bout du compte un Dieu unique quand même. Et donc il y a le souci d'une fidélité à cette unicité-là. Et de pouvoir, du coup, réinvestir cette unité avec de la pluralité. Mais vous voyez, par exemple, l'islam est un monothéisme strict, avec 99 noms de Dieu. Qui sont finalement des attributs de Dieu, qui sont finalement des modalités de Dieu.
Ouais, mais c'est parce que le raisonnement à ce moment-là, si c'est les intermédiaires qui déterminent si on est monothéiste ou pas, donc vous voulez mettre les différentes modalités ou des choses comme ça, c'est pas à ce moment-là, même l'hindouisme est polythéiste. Enfin, il est monothéiste.
Oui, ça, on était au courant pour le polythéisme.
Non, mais justement, il n'est pas, parce qu'en fait, sur chaque temple, c'est marqué sage et celui qui le nomme un. C'est-à-dire qu'on a beau avoir plein de formes, plein de manifestations, on n'en conçoit quand même qu'une unité à la fin. Donc, est-ce que c'est ça le monothéisme ou est-ce que c'est le fait que l'absolu transcende ? C'est pas la même chose.
Dans ce cas-là, effectivement, les dieux de l'Inde étaient tous les enfants de Jupiter et donc, du coup, coup, effectivement, on revient aussi à notre athéisme, voilà, d'un polythéisme. Mais finalement, est-ce que c'est pas ça, finalement, le vrai. Tu disais avec un peu de provocation que tu parlais d'unitarisme et de polythéisme, finalement, ça revenait au même. Je ne sais pas, j'ai mal traduit ça.
C'est pas en polythéisme.
J'ai mal traduit. Est-ce qu'on ne peut pas, finalement, considérer que la croyance en un Dieu unique n'est pas incompatible avec la croyance en l'affirmation de ses attributs, et qu'effectivement Jésus est finalement incarne tous ses attributs, personnifie tous ses attributs. Et c'est pour permettre aux hommes de comprendre peut-être mieux cette personnification, enfin ses attributs, que Jésus a toutes ses qualités qu'il représente dans sa vie, tout au long de sa vie.
Donc, à la fois sur le Saint-Esprit, du coup, si.
C'est-à-dire que quand ça pose problème quand, par exemple, l'un des attributs est soit atrophié, soit surdimensionné. Parce que il y a une forme d'intégrisme là qui se noue, en fait. Et du coup, le monothéisme, c'est de pouvoir avoir accès à la totalité du divin. Et pas une seule partie qui risquerait, oui, effectivement, de créer un déséquilibre et qui, du coup, conduirait à une humanité elle-même atrophiée.
Mais dans quel sens ça s'est construit ? C'est-à-dire, post-résurrection, les disciples, eux, ont pensé que Jésus était le vrai Dieu. Ils sont glissés de fils de l'homme à fils de Dieu à vrai Dieu lui-même, et donc il a fallu faire une trinité pour introduire ce Dieu supplémentaire. Je dis ça va bien. Ou c'est dans l'autre sens. C'est la trinité.
C'est post-Pascal.
Jésus lui-même. Reconnaissance par les disciples que Jésus lui-même est Dieu.
Oui, c'est même post-témoignage des disciples. Difficile de reconstituer exactement l'histoire de l'élaboration de Jésus fils de Dieu, mais et de Jésus Dieu lui-même, mais les évangiles sont plutôt avares de Jésus Dieu.
Parce que même au moment des Emmaüs ou autres, quand ils reconnaissent post-résurrection, ressuscité, pour eux ça n'entraîne pas d'emblée qu'il soit Dieu lui-même.
Il y a Thomas qui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ».
Oui, puis même quand il calme la tempête, quand il y a quand même, c'est des actes quand même un peu de théophanie, quoi, si vous voulez. Ça sent quand même un petit peu l'apparition divine, quand même. Mais...
C'est pas verbalisé. Vous le lisez comme ça. Enfin, on le lit comme ça, mais...
Non, je crois que ça veut dire ça littéralement, quand même. Ouais. Quand Jésus calme la tempête, quand même ça, c'est du Genèse 1, si vous voulez, et... Bon, c'est exprimé comme ça, c'est comme Jésus, ou la parole incarnée, la parole faite chair, on peut y être du divin qui se manifeste en Jésus, et ça je crois qu'ils étaient tous d'accord, je pense quand même, en disant que Jésus est Christ, c'est un peu ça que ça veut dire, il projette le salut qui vient de Dieu, donc de la parole de Dieu, donc de l'Esprit, donc de la gloire de Dieu.
Mais pensez à quelque chose par rapport à la Trinité, c'est que, donc on parle de personne, persona, en grec c'est prosopon. Donc c'est le masque, c'est le visage de l'acteur, c'est en fait le rôle. Et vous voyez, qui dit rôle, dit en fait que derrière, il n'y a pas forcément une matérialité. Ça peut être une fonction plutôt. Et donc, il n'est pas impossible qu'on ait aussi, fixé, sédimentarisé une pédagogie qui était une pédagogie plus fonctionnelle en quelque chose de plus essentialiste. Et c'est au XXe siècle qu'on va retrouver quelque chose de plus fonctionnel avec le Christ comme fonction et pas comme une nature propre. Et tout à l'heure, je vous disais, différents visages pour le même Dieu, en fait. On vient même sur un modalisme faible. Parce que dans ce cas-là, c'est pas une divinité qui prendrait différents visages. Dans ce cas-là, ce serait... des modes d'action qui en eux-mêmes seraient divins. Parce qu'ils porteraient l'être à son plein accomplissement.
Oui, on pourrait dire que le bon samaritain est quand même un peu un Christ pour celui qui est sur le bord de la route. Et pourtant, il n'a pas de molécule christique en lui. Mais il fait fonction d'eux. Il incarne le rôle.
C'est toute l'évolution de la pensée, j'imagine, entre le IIIe siècle et Lumière, Nietzsche,
Kant. Oui, mais. Au niveau des concepts, d'un autre côté, je pense qu'ils n'étaient pas moins futés que nous, hein, les gens de cette époque.
Non. Que... La simplicité entre le sol sur son élément, il déléguait pas en pouvoir.
Exactement.
Non, mais la pensée, elle a tellement évolué.
Ouais, ouais.
Parce que c'est pas une moulinette, hein, pour être la face de Dieu.
Mais.
La face, pas au pluriel.
Oui, c'est au pluriel, les faces de Dieu, oui. Pas nîmes, c'est au pluriel.
Mais il condamnait déjà la superstition à l'époque.
Oui.
Donc ils avaient déjà l'idée qu'il pouvait y avoir un rapport superstitieux au divin.
Non, mais c'est assez puissant, et ça fait très compliqué, vous savez, vraiment, l'outillage, l'équipement de la pensée, être sûr de toujours travailler sa foi.
Oui, mais...
Outillage, enfin, ouais.
Mais comme le disait James, il y a un moment où ça devient desséchant, je veux dire, cette construction qui est faite par mille, je dirais, bouts de tuyaux, fils de fer, ficelles, ça devient quand même un peu épuisant. Et c'est vrai que peut-être en réaction à ça, il y a eu les mystiques qui ont développé donc une sorte de non-dogmatisme en disant, voilà, en disant, bon, ils font de la théologie, mais ils disent Dieu est toujours au-delà de Dieu, et ça, ça a quand même fait un grand bol d'air peut-être. Et décomplexer peut-être aussi cette sorte de théologie spéculative en disant, bon, alors d'accord, on fait de la théologie spéculative, mais enfin bon, l'essentiel reste quand même l'expérience de Dieu. Et ça, je trouve que c'est un grand bol d'air qu'ont apporté les mystiques. D'ailleurs, ils ont tous un peu eu chaud aux plumes, hein, les maîtres Eckhart, les Abélard, je ne sais pas qui, ont tous un peu eu des ennuis, mais effectivement, ils étaient quand même... une réaction, je dirais, saine de correction par rapport à ça, en apportant un contrepoids. Et puis souvent, c'est le balancier. Quand le balancier va trop loin d'un côté, ben, il y a un retour du balancier un petit peu, et donc du coup, c'est ça enrichit, je pense.
Tout le monde n'est pas d'accord sur la notion d'innovation. Est-ce qu'on peut innover alors que tout est déjà dit ou pas? Parce que quand on prend l'église orthodoxe, il y a tout un travail sur le fait de ne pas innover. Parce que tout a déjà été dit.
Dans la liturgie, mais quand même.
Mais bien sûr, il y a une créativité, etc.
Il y a une créativité dans la spiritualité magnifique, justement.
Mais par exemple, les orientaux vont trouver les ressorts de la psychologie au sein des théologiens. Parce que, après tout, les textes bibliques sont aussi des textes symboliques qui permettent de mettre à jour la psychologie. La psychologie, c'est jamais autre chose que la science de l'âme. Hein. La cure d'âme, c'est psychothérapie. Hein.
Bon, il faut laisser retourner chez eux ceux qui habitent peut-être loin. Donc on peut continuer à discuter peut-être en libérant ceux qui veulent rentrer dans leur foyer avec ces temps un peu de froidure. Donc merci de nous avoir rejoints et donc à tout bientôt le mois prochain avec un autre sujet que vous verrez sur le site internet.
C'est Science et Foi.
Science et Foi.
1er février.
Bon, alors ça vient vite. C'est parfait. Merci.
Science et Foi.
À tout bientôt.
Merci beaucoup.